BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaret et Sylvain Aurébi.
Eh ben, il était temps qu'on se retrouve quand même après 3 semaines de pause. Bonne année à tous les aficionados de la BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise. Chaque semaine, pendant toute la saison, nous recevons deux créateurs d'entreprise que vous départagez. Et à la fin de la saison, il n'en reste qu'un, finaliste. Il y a deux finalistes et donc il y a un vainqueur à lauréat qui remporte une campagne de pub pour son entreprise sur BFM, la radio de l'écho. Je vous rappelle le principe de l'émission brièvement, la première moitié de cette émission, on fait la connaissance de nos deux créateurs d'entreprise, de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils font. La deuxième partie est quelquefois un petit peu plus sauvage, ce sont les ineffables mouches du coach. Eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Eve Chégaret. Bonjour Eve.
Bonjour, bonne année à tous.
Fondatrice d'Option Décision, le coaching pour entrepreneurs et décideurs. Et avec nous, Sylvain Aurébi. Bonjour.
Bonjour et bonne année à tout le monde.
Il est président d'Orientis, la maison mère des Tecousmi, des machines à café Jura. On va commencer par les humeurs du coach, les humeurs du coach 2010.
Eh ben, moi, je rebondis sur ce que vous disiez quand vous parliez de créateurs d'entreprise. Moi, je crois qu'on reçoit surtout des entrepreneurs. La création, elle est déjà derrière.
C'est vrai que c'est pas la même chose.
Et régulièrement, les entrepreneurs me disent, mais à chaque stade du développement, ces difficultés spécifiques, ces enjeux spécifiques, ces déceptions et ces joies. Et tout ça, ça fait que souvent, c'est assez difficile pour quelqu'un qui a déjà monté sa boîte et qui est déjà un petit peu lancé de discuter avec quelqu'un qui est encore dans les soucis du lancement. Mais justement, dans le réseau BFM Academy, et d'ailleurs dans notre émission, on mélange un peu, et des gens qui ont monté une entreprise depuis 6 mois peuvent discuter avec ceux qui ont monté leur boîte il y a 4 ans, et ça fait la richesse de nos échanges.
Avec nous donc Sylvain Aurébi et son humeur du jour. Qu'est-ce que vous voulez dire, Sylvain?
Eh bien, Sylvain, cette semaine, à la rentrée de 2010, va essayer d'être un peu solidaire, et il va vous parler d'un truc formidable qu'il a découvert, qui s'appelle jeveuxaider.com, comme ça se prononce, jeveuxaider.com, qui fait du conseil en solidarité pour les entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises voudraient avoir une démarche solidaire, une démarche envers les autres, et ils ne savent pas comment faire. Eh bien, jeveuxaider.com les aide à concevoir une opération solidaire qu'ils ne savent pas toujours organiser. Il les aide à devenir mécènes d'une association. Jeveuxaider.com est en rapport avec 3000 associations. Donc, on peut vraiment choisir l'association caritative, solidaire qu'on veut. Quand on ne sait pas comment mener une telle opération, on peut s'adresser à eux. Et je trouve que c'est très bien parce que dans l'entreprise, je pense que beaucoup aimeraient faire ce genre de choses, n'y pensent pas. Et ce mécénat solidaire, c'est quelque chose que jeveuxaider.com fait très bien. Donc c'est peut-être l'occasion de le découvrir en ce début d'année.
Alors avec nous, deux entrepreneurs, on va dire. D'abord, Maxence de Vaugelard, bonjour.
Bonjour, bonne année à tous.
Et avec nous, Julien Audran.
Bonjour.
BFM Academy 2010. Uniquement sur BFM Radio.
Allez, on va commencer par Maxence de Vaugelard, F. Chégaret.
Alors Maxence, vous avez 24 ans, vous êtes installé à Lille. Vous avez fait Télécom Lille, vous êtes donc ingénieur. Vous avez suivi aussi le Master Entrepreneuriat et Management de l'Innovation. Pas encore de CV de 3 pages à votre âge, mais pourtant beaucoup d'expérience, et en particulier dans le jeu vidéo. Vous allez comprendre ensuite. Je ne m'étends pas sur votre première expérience chez Auchan. Visiblement, quand on est de Lille, on doit tous avoir fait un stage ou une expérience chez Auchan. C'est un rite initiatique. Bon, en 2005, vous avez aussi une expérience pour le développement d'un portail de référencement d'arts martiaux, en l'occurrence. Mais c'est en 2006, vraiment, que vous entrez dans ce qui est devenu votre univers, à vous. Là, vous entrez chez un éditeur de jeux vidéo, ça s'appelle Ankama, et vous travaillez sur la refonte d'un portail, sur la mise en place d'outils d'administration. En résumé, vous devenez un spécialiste de ce qui est derrière le jeu vidéo. Très vite, vous commencez à travailler sur la création de vos propres jeux vidéo, avec votre ami Sacha Stéphanian, qui est devenu votre associé.
Voilà, donc l'entreprise voit le jour en mars 2008, installée à Lille, 3dduo.com, www.3dduo.com, 3, le chiffre 3, D-U-O.com, créateur de jeux vidéo pour les professionnels. L'objectif, c'est de créer des jeux vidéo au service de la publicité des entreprises, véritablement la communication des entreprises, avec bien sûr l'idée quand même de mettre en relation le jeu vidéo et le business. Il y a 3 produits. Il y a les Serious Games. Alors il y a des exemples, vous nous raconterez. Il y a les adverts games, comme advertising, hein, où là on va présenter un produit, présenter une marque, et puis les univers communautaires dans lesquels les utilisateurs peuvent se parler et échanger leurs avis. Là c'est un peu moins évident. C'est quoi un univers communautaire? En quoi le jeu crée un univers communautaire où on va... J'ai pas tellement compris comment ça fonctionnait.
Alors un univers communautaire c'est assez simple. Je vais vous donner un exemple. C'est toujours plus pratique quand on donne un exemple. Par exemple, comme on travaille avec les annonceurs, les marques, un constructeur automobile qui a envie de présenter sa gamme de façon originale, va nous demander une concession virtuelle. Donc on va faire une concession sur Internet en trois dimensions, directement dans le navigateur Internet.
Vous voulez dire comme un garage
Si vous voulez, comme un garage automobile, un lieu de vente, mais virtuel sur Internet. Au lieu que ce soit un simple site avec du texte, on a une vraie concession en trois dimensions dans le navigateur, dans laquelle on peut se balader avec un personnage. Et si d'autres personnes sont connectées en même temps que nous, on les voit, on peut dialoguer avec
d'accord,
eux.
D'accord, c'est
donc
un peu
petit
clair.
Peu comme dans Second Life, si vous connaissez.
Ouais, ouais. Bon, on a suffisamment parlé. Hein. Vos clients, les grands comptes, bien sûr, les PME, maintenant le grand public. Alors, il y a un projet qui porte un nom à coucher dehors, je ne sais même pas comment vous le prononcez, qui est lancé
Lille.
Prochainement.
Lille, L-E-E-L-H.
Et ben voilà.
Tout simplement, voilà.
Lille. Alors, si j'ai bien compris, vous allez me corriger, c'est un...
Ça ressemble à sa ville, un peu.
Oui, absolument. Mais c'est le premier jeu qui se passe à Lille, disent-ils, où on vit dans une espèce d'univers apocalyptique dans les années 2000 et quelques. Et alors là, on est dans le domaine du jeu classique.
C'est pas encore lancé. Bon. C'est très proche. Là, c'est en février, donc c'est très proche. Et on est en phase de test là depuis la fin de l'année 2009.
Comment vous avez répondu à un nom pareil? L-E-E-L-H. C'est Lille, oui.
Alors, c'est assez marrant. C'est qu'au départ, on n'était pas du tout parti là-dessus. Donc, c'est un univers en 2087, comme vous le disiez, dans un univers un peu
Nous
apocalyptique.
En 2087.
Donc, tout a explosé et il reste.
La nature rasée de la surface de la planète. Ah.
Bon, je vous ferai les voix si vous voulez. Hein. Je suis pas cher.
Ouais, on est preneur.
80 ans de Martine Aubry et c'est l'apocalypse.
Alors, on a essayé de pas jouer sur ce terrain-là.
Aïe, aïe, aïe.
Bon.
Donc, et en fait, justement, l'objectif, c'est que les joueurs comprennent ce qui s'est passé. Alors là, on est dans le jeu pur, dans la science-fiction.
Ça va être vendu
exactement.
Comment, ça va être vendu
Justement, c'est là aussi un peu l'originalité, c'est qu'il n'y a pas de support. Donc on est vraiment totalement dématérialisé. C'est un petit peu ce qu'on appelle le jeu de demain. Et ça va dans la même veine que les technologies qu'on utilise pour nos clients avec le Serious Game.
Mais ça sera payant, hein?
Alors ce sera payant, mais ce sera un abonnement. Donc on paye un droit d'accéder, mais le jeu en lui-même est gratuit. On y accède via un portail.
Ça sent l'addiction déjà, le mot abonnement.
Alors, je donne quelques chiffres clés, puis je laisse la parole à Sylvain et Eve. Donc aujourd'hui, vous avez 27% du capital. Et Sacha Stépanian en a 27% également. Le reste, il y a un peu des investisseurs. Pour une fois, c'est ouvert. C'est pas un capital totalement verrouillé. 20 personnes actuellement, tout le monde est payé, hein.
Tout le monde est payé.
Wesh. 6 embauches prévues, 130 000 euros de chiffre d'affaires en 2008, 560 000 euros en 2009, 130 000, 560 000 en 2009, 880 000 euros en 2010, là évidemment c'est une prévision. En tout cas pour lancer 3D Duo, vous semblez avoir été sacrément soutenu par les réseaux locaux là-bas.
Alors oui, on a été...
Ça c'est impressionnant, tout le monde y est quoi.
Oui, a priori c'était comme une chaîne de solidarité.
Tout à fait, on a été très soutenu et c'est un petit peu la force de notre région. Alors je vais pas vendre notre région.
Vous avez le droit, si.
C'est un petit peu la force de la région justement parce que il y a tout un nombre de réseaux qui ont été mis en place suite aux crises de la sidérurgie et des mines notamment. Non. Et donc pour un peu rebondir, ils ont fait différents réseaux qui soutiennent. Donc il y a notamment Lille Métropole Initiative, Réseau Entreprendre, et qui fonctionnent très bien et qui nous apportent non seulement un soutien avec des coachs, donc qui viennent nous accompagner, qui viennent nous faire part de leur expérience, de leurs problèmes, mais également un soutien financier nécessaire au départ.
Les Serious Games, les Adverts Games et désormais les univers communautaires. Bientôt le projet Lille, L-E-E-L-H. J'aime beaucoup le nom, décidément. Allez-y, Sylvain Rémy.
Alors, vous avez combien de clients aujourd'hui? Parce que pour faire 560 000 euros, ça doit faire un nombre important de clients. Ça coûte combien en moyenne votre prestation pour un client?
Alors, en moyenne, c'est 30 000, 40 000 euros. Par client.
Ah oui, quand
maintenant,
même, c'est,
on peut
c'est
avoir
pas
des
petites choses.
Voilà,
donc ce sont des grosses PME.
Projets. C'est des grosses PME. Nous, nos clients, clairement, c'est les institutions et les grands comptes.
Si vous voulez en citer, vous pouvez, c'est autorisé. Si vous voulez donner des noms, il n'y a aucun problème.
Oui, vous avez fait des choses
vous
pour qui
non, ben non, bizarrement, non.
Moi, je suis déçu.
Bizarrement, non, ils sont très prisés dans un peu ce milieu de l'innovation sur Internet. Donc, c'est vrai que c'est pas un de nos clients phares. Maintenant, on a travaillé pour le ministère de la Santé. On a travaillé pour le groupe Oxylane, Décathlon. On a travaillé, là, on est en train de travailler aussi pour les éditions législatives, qui est une filiale du groupe Dalloz. Donc voilà, on a pas mal de clients.
Bon, en résumé, avoir des clients grand compte, ça rapporte plus quand même. C'est un peu la leçon de l'affaire.
Nous, on n'a pas le choix avec notre business, étant donné qu'on est dans, on est vraiment dans de la promotion, dans de la sensibilisation. Donc on n'est pas dans des, enfin, c'est pas vendeur ce que je vais dire, mais on n'est pas dans du fondamental pour les entreprises. On est vraiment dans du plus, dans ce qu'il y a autour, dans ce qui va permettre de mieux vendre un produit, dans ce qui va permettre de mieux toucher son public. Donc pour les PME, clairement, c'est pas stratégique d'aller là-dessus. Et en plus, c'est pas dans les budgets qu'elles peuvent se permettre.
Ils sont possibles. Alors Maxence, vous êtes déjà pas très vieux, mais quand vous avez commencé il y a un an ou deux, vous étiez pour la peine tout frais moulu. Comment vous vous êtes organisé avec votre associé pour, même si vous avez été bien aidé, on l'a compris, pour attaquer tout ça, pour structurer, pour choisir de vous adonner à votre passion, de se créer ce beau jeu là qui s'appelle Lille, qui va sortir dans un mois, mais en même temps d'être rentable et savoir ses clients grand compte. Comment vous avez fait concrètement?
Alors il y a eu deux choses. La première chose, c'est comment on a fait. On est passé par par le master dont vous aviez parlé. En parallèle de ce master, qui était que 2 jours et demi par semaine, on a fait, on a intégré un incubateur. Donc un incubateur, c'est tout simplement, on travaille sur notre entreprise sans l'avoir créée. Donc pendant 1 an et demi, on a été dans cet incubateur en étant toujours accompagné. Donc en fait, on a commencé encore même plus jeune que jeune, vu qu'on a eu 1 an et demi hors création juridique de la société. Et ensuite, comment on a fait pour créer le jeu en parallèle des clients? Donc là, tout simplement, on a démarré un programme de recherche et développement avec le ministère de la Recherche, qui a été validé. Et donc justement, pourquoi il a été validé? Vous allez dire, au ministère de la Recherche finance du jeu vidéo. Oui, parce qu'on utilise des technologies innovantes, dématérialisées, sans support et compagnie. Donc on a financé un projet beaucoup plus large, qui est la création de mondes virtuels, en fait, dématérialisés.
Je pense à quelque chose, vous avez jamais vu cette pub pour l'armée de terre, où il y a des gars qui sont en train de faire tout un tas de choses d'armée, quoi. Et puis en fait, il y en a un qui est finalement sur un écran, ils essaient de nous faire comprendre, viens jouer à l'armée de terre, c'est aussi sympa que d'être dans un jeu vidéo. C'est poignant.
Enfin, alors, dernièrement, ils ont même fait une campagne...
C'est pas vous qui l'avez fait.
Ah non, mais ils ont fait une campagne de Serious Game, c'est pas nous non plus, mais ils l'ont fait justement sur leur site internet.
C'est un peu risqué. Enfin, en tout cas, ça vaut la comparaison.
Très vite, Eve, très vite, allez-y.
On a presque...
Oui, les secondes files.
Bon, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à de grands studios qui existent?
Nous, justement, c'est la technologie, dématérialisation totale. Donc, on fait de la 3D dans le navigateur Internet, dans votre fenêtre Internet, sans que vous ayez rien à installer sur votre machine et sans carte 3D, alors que c'est de la 3D. Donc, ça, c'est un peu le comble. Et la deuxième chose, c'est la jeunesse et donc la créativité.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Voilà, Maxence de Vaugelard, il vient de la donner cette phrase clé pour son entreprise, hein, le développement de jeux en 3D multi-utilisateurs directement accessibles en ligne sans aucune installation supplémentaire sur l'ordinateur. Combien de fois ça nous a fait suer de devoir aller chercher un outil pour faire fonctionner quelque chose en ligne, hein. Voilà, on va marquer une première pause dans cette émission. Je vous rappelle l'adresse internet www.3dduo.com, 3, le chiffre, hein, dduo.com. À tout de suite.
BFM Weekend. Tous les week-ends sur BFM Radio, découvrez l'audace des entreprises françaises. Business Club de France avec Michel Picot.
Et cette semaine, nous nous intéresserons aux PME dans les DOM-TOM qui font bouger la France, elles aussi. Puis notre dossier spécial sera consacré à ces entreprises qui ont su se regrouper pour développer avec succès leur business. Rendez-vous samedi à 22h et dimanche à 15h.
Business Club de France avec Michel Picot, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Uniquement sur BFM Radio.
Vous cherchez un moyen simple pour créer votre entreprise ou augmenter vos revenus? Devenez auto-entrepreneur. Lancer une activité en indépendant, ça s'apprend. Rendez-vous à la première université des auto-entrepreneurs en région pour rencontrer les meilleurs experts le 22 janvier à Orléans avec BFM Radio. Informations sur universitéautoentrepreneur.com. Université-auto-entrepreneur.com.
Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de 01 Informatique.
Cette semaine dans 01, revivez l'année 2009 dans son intégralité. Les succès, les flops, les tendances, les personnalités. Du cloud computing à l'iPhone, quelles innovations ont marqué 2009 et que nous prépare 2010? À lire aussi dans 01, une enquête sur le télétravail. Législation, organisation, tout se met en place pour que les entreprises s'y mettent enfin.
Retrouvez 01 Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com. BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaret et Sylvain Aurébi.
Et 2 entrepreneurs cette semaine. Le second à suivre, il s'appelle Julien Audran. Il a créé Espace Rendez-vous. Alors, F. Chégaray, Julien Audran, qui est-il? Vous vous êtes intéressé à sa vie.
Mais bien sûr, Julien, vous avez 30 ans, vous êtes installé à Paris, alors vous, quand même, rien ne vous préparait à vous occuper un jour des agendas des esthéticiennes. Vous sortez de l'EM Lyon, l'école de management de Lyon, en 2002, vous enchaînez avec un master en Suisse en management international, au passage vous cumulez des stages chez Rothschild et compagnie, puis au Crédit Agricole Indosuez Lazare comme analyste. Fin 2003, vous entrez chez Calion, mais vous décidez de ne pas rester, vous rejoignez Citigroup, vous êtes basé à Londres, on a compris dans quel univers vous évoluez. Donc, en 2006, vous arrivez chez JP Morgan pour travailler sur des fusions, acquisitions et autres. Il va falloir nous expliquer ce qui vous a fait changer d'univers à ce point. Mais mon petit doigt m'a dit que votre femme avait monté une chaîne de centres de bien-être. Les centres ont rencontré le succès, les problématiques de gestion de la clientèle et des rendez-vous vous ont visiblement donné des idées. Depuis, vous êtes aussi devenu un blogueur occasionnel, invité sur le blog 2.0 accessoweb.com. Vous avez donc choisi votre camp, celui des webpreneurs.
Voilà, donc www.espacerendez-vous.fr. Je ne veux pas les plaire, hein. Espacerendez-vous.fr en un seul mot, bien sûr. C'est un site de prise de rendez-vous en ligne, avec évidemment derrière les rappels des rendez-vous par SMS et par email, la gestion automatisée des cartes de fidélité par exemple, mais il y a absolument plein d'autres services possibles, et puis la communication automatisée sur des réseaux sociaux type Facebook ou Twitter. Alors concrètement, votre client, il y a une vidéo, on voit un coiffeur, hein. Coiffeur qui va être client donc d'espacerendez-vous.fr. Il va créer ce coiffeur son agenda électronique sur votre site et il va inscrire ensuite dedans les rendez-vous de ses propres clients à lui, à qui il coupe les cheveux. Et puis une fois que le système s'est inscrit dans les habitudes, le client du coiffeur, il va lui directement prendre son rendez-vous sur le site de son coiffeur et comme ça tout devient totalement automatisé. Voilà, le lancement opérationnel de l'entreprise est tout récent puisque ça date de la rentrée dernière. Vos clients, je viens d'en citer un, les professionnels de service, médecins, avocats, salons de beauté, esthéticiennes, garagistes, agences immobilières, et puis les particuliers, les internautes qui publient des petites annonces, les coachs peut-être, les particuliers qui donc veulent vendre des biens en ligne. Vous racontez que devenir créateur d'entreprise, ça n'a pas été évident, il fallait développer un logiciel, vous ne saviez pas le faire, fallait quitter un job confortable, c'est quand même toujours audacieux. Et travailler seul, quand on a toujours travaillé en équipe, voilà, il y avait beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, quelques chiffres clés sur Espace Rendez-vous. Vous avez 100% du capital. Vous êtes associé à Johan Tsobanoglou. Il y a deux personnes, donc vous et lui, hein. 5 embauches prévues, 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2010, donc l'an prochain, enfin cette année plutôt, mais à la fin de cette année. 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2011, avec un point mort opérationnel, mi-2010. Bon, voilà pour les principales données, hein, sur espacerendez-vous.fr. Ève, Chégaray, Sylvain Réby.
Ben écoutez, moi je reviens à cette question de comment on fait pour squeezer le rapport humain. C'est-à-dire que quand on va prendre rendez-vous chez... Et exprès, je ne prends même pas l'esthéticienne ou la coiffeuse que je pratique plus que le garagiste, mais quand même. On va chez le garagiste, je crois qu'au moment où on prend rendez-vous, on demande déjà un bout de conseil, ou on cherche déjà un bout de la prestation, un début d'aide au moment de la prise de rendez-vous. Comment vous pouvez remplacer ça?
Alors, il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Déjà, la première chose, c'est quand vous prenez rendez-vous, donc vous allez choisir votre horaire, vous allez choisir le jour, vous allez choisir la prestation que vous souhaitez, et le professionnel a pu proposer des questions auxquelles vous devez répondre au moment de la prise de rendez-vous.
Ça existe dans votre logiciel?
Tout à fait. Donc vous répondez, si par exemple vous venez pour une visite la première fois, c'est une option découverte, vous allez pouvoir répondre à la question qui a été posée par le professionnel, vous allez devoir préciser votre besoin, et donc quand vous arrivez, il sait déjà pourquoi vous venez, et il peut poser aussi d'autres questions plus pertinentes en fonction du métier adressé.
On peut poser plusieurs questions à son futur client?
Oui, tout à fait.
C'est étonnant, est-ce qu'un garage non, alors je reviens à la coiffeuse.
Elle est plus à l'aise naturelle, revient au galop.
Non, mais la coiffeuse, le coiffeur va proposer à son client de mettre des commentaires sur ses intentions, mais c'est pas évident de mettre
si
par
écrit.
Si vous
proposez écoutez, des codes promo aussi
non, mais
sur le.
J'ai vraiment les cheveux gras, faut que je consulte, quoi, faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Mais
ça dépend vraiment du métier que vous adressez. Si vous parlez d'un salon de coiffure, vous n'avez pas spécialement de questions auxquelles vous avez besoin de répondre pour venir. Vous choisissez, je veux une coupe de cheveux homme, c'est tel prix, voilà, vous n'allez pas répondre, il n'y a pas de questions précises. Mais pour certains métiers, pour répondre à la question que vous posiez auparavant, si c'est un garagiste, il peut y avoir, est-ce que vous venez pour un contrôle technique, est-ce que vous pouvez préciser le besoin. Mais il y a certains services où ce n'est pas nécessaire et on ne le propose pas.
Oui, c'est pas ce qui est primordial dans votre proposition, c'est vraiment la prise de rendez-vous. On se connecte, on a l'agenda du coiffeur, et puis on choisit son horaire.
Alors on n'a pas
son horaire,
attention, hein, parce que le coiffeur, lui, il veut pas.
Il oui, mais il y a les horaires. Il y a les horaires qui sont disponibles.
Il y a les plages de disponibilité, voilà, qu'il a bien.
Donc on peut choisir son heure tranquillement, en prenant son temps, parce que quand on est au téléphone, on n'a pas forcément le temps de décider vraiment à quelle heure
si
on
nous propose un autre rendez-vous. Je veux que ce soit que Mireille qui me coupe les cheveux parmi les différents salariés du coiffeur.
On peut choisir. On peut choisir le nom de la coiffeuse.
Qui vous paye, Julien? Qui vous paye dans cette histoire?
Le professionnel, le client, d'accord, l'institut de beauté par exemple, qui va prendre un abonnement chez Espace Rendez-vous.
Ouais, vous dites que l'objectif est d'atteindre un nombre de clients qui rend le projet crédible pour les investisseurs. Il est où ce seuil, ce nombre de clients?
Aujourd'hui, nous, on est sur un rythme d'acquisition de clients de 5 à 10 par mois. On espère passer à 10 à 20 au courant 2010 pour arriver à environ 200 clients, franchir la barre des 200 clients en 2010. Et à ce moment-là, on pense qu'on pourra aller voir des investisseurs, puisqu'on n'aura pas que des slides PowerPoint. Bon, on aura une vraie crédibilité. Mmh. On aura testé quels sont les métiers qui marchent le mieux. Est-ce que c'est l'institut de beauté? Est-ce que c'est le salon de coiffure? Est-ce que c'est le garagiste? Et on aura un discours cohérent, d'accord, pour un investisseur.
C'est bon marché, votre...
C'est très bon marché. Ça commence à 39 euros par mois. Ça va jusqu'à 100 euros par mois.
C'est quand même pas loin de 500 euros par an.
Oui, tout à fait.
C'est pas donné, non?
C'est pas donné sur le papier comme ça, mais notre logiciel apporte beaucoup de choses. Une des choses qu'il apporte, c'est le rappel SMS avant chaque rendez-vous. Et donc, ça permet, et nous, c'est ce qu'on constate chez nos clients aujourd'hui, c'est que les absences au rendez-vous sont divisées par 5. Donc, c'est du temps gagné pour le professionnel et c'est du chiffre d'affaires gagné. Donc, très rapidement, parce que ces clients pensent à venir au rendez-vous, ils gagnent de l'argent et ils remboursent son abonnement.
Et vos clients, qu'est-ce qu'ils vous racontent alors de ce qui se passe pour eux? Est-ce que vous avez des retours bien clair des bénéfices qu'ils en ont?
Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai lancé le projet, ma première interrogation, c'était: est-ce que les gens vont aller sur Internet pour prendre leur rendez-vous? Est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ils vont pas avoir besoin de ce contact humain? Et on s'aperçoit, et on a des concurrents aux États-Unis qui proposent déjà des solutions comme ça, on s'aperçoit que 30% des rendez-vous sont pris par Internet. Donc c'est le client...
Aux
États-Unis et sur nos clients en France aussi. Donc ils s'aperçoivent très vite de l'utilité de l'outil, parce que ça leur fait gagner du temps. Tous les rendez-vous qui sont pris par Internet, si le coiffeur il est en train de faire une coiffure, il n'a pas besoin de se lever, d'aller décrocher le téléphone et de noter le rendez-vous. Donc il a gagné du temps.
Et ça marche aussi pour les restaurants, pour les sorties?
Ça marche très bien pour les restaurants. Nous, on ne le propose pas parce que c'est très bien adressé par un site qui existe qui s'appelle lafourchette.com. C'est un vrai succès en France. Il y a plus de 3000 réservations sur leur site.
Donc
chaque
vous
jour.
Êtes comme lafourchette.com, mais pour les autres professions.
Tout à fait.
Voilà. Vous dites aussi dans la fiche qui accompagne votre entreprise que parmi les ambitions qui sont les vôtres, vous voulez avoir une histoire à raconter. Je me suis demandé si vous étiez venu nous voir aujourd'hui parce que vous n'aviez rien à nous dire. Puisque visiblement, vous n'avez pas encore cette histoire à raconter.
Non, en fait, je pense que ce que je voulais dire par histoire à raconter, c'était: il nous faut développer le modèle,
oui,
il faut recruter des clients pour aller raconter une histoire à des investisseurs.
À des investisseurs, voilà. C'est l'objectif quand même, ouvrir le capital. Hein.
Ah, tout à fait.
Bon. J'ai vu qu'il y avait une deuxième adresse qui est myrendezvous.fr, c'est quoi ça?
Alors, tout à fait, on a commencé à travailler sur le site MyRendez-vous qui va être lancé une fois qu'on aura atteint un certain nombre de clients sur Espace Rendez-vous. L'objectif de ce site, c'est de référencer tous nos clients pour que une personne qui cherche un coiffeur dans le 15e arrondissement à 18h, ouais, il puisse trouver un coiffeur disponible, d'accord, et prendre rendez-vous avec
lui. Ce que font certains de vos concurrents déjà, il me semble.
Sur les médecins, tout à fait.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Voilà, Julien Audran avec espacerendezvous.fr, le site de prise de rendez-vous, l'agenda et le gestionnaire de planning en ligne qui, en plus, entretient le contact avec vos clients. Entreprise créée en avril 2009, il est installé à Paris 8e. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. BFM Academy, ça continue.
BFM Weekend. L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Arnaud Le Gall.
Ce week-end, Arnaud, nous recevons Christian Lanuc, le président d'Excel Développement.
Champion du foie gras en France et en Amérique du Nord.
On découvrira Nika Stapel, cofondatrice de Castaluna. On accueillera Jean-Luc Semama, expert comptable. Et Tristan Lecomte, président d'Alter Eco. Rendez-vous samedi à 19h et dimanche à 13h.
L'entreprise BFM, tous les week-ends, l'émission qui donne envie d'entreprendre.
Et si cette semaine, on tentait de nouvelles choses? D'abord, je vous ferai découvrir les bonnes surprises d'Office 2010 à télécharger gratuitement. Enfin, je testerai pour vous 10 clés USB 16 Go à partir de 39,90€.
Attirant et tellement pratique. Microhebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Microhebdo, simplifiez-vous la vie.
Sur bfmradio.fr, inscrivez-vous au podcast et téléchargez gratuitement toutes les émissions de BFM Radio.
C'est ça la difficulté française, c'est de vouloir tout et son contraire en même temps.
La vraie question, c'est que nous n'avons pas de vrai marché du travail.
Le problème de ce gouvernement et d'ailleurs de l'ensemble des gouvernements, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va.
bfmradio.fr, écoutez et réécoutez BFM Radio en toute liberté, quand vous voulez, où vous voulez. Batiweb présente la troisième cérémonie des Batiweb Awards. Le 2 février, lors de la remise des trophées à l'Automobile Club de France, le palmarès 2009 sera enfin dévoilé. Professionnels et industriels du bâtiment, vous découvrirez les produits et solutions par secteur qui ont le plus convaincu nos internautes. Rendez-vous sur batiweb.com pour connaître la liste des nominés. Les Batiweb Awards, un événement en partenariat avec BFM Radio, Pro BTP et la SMA BTP.
BFM Weekend, midi 30. Les infos, Jérôme Tichy.
Et on commence par un point complet sur les intempéries. À l'heure actuelle, 29 départements restent placés en vigilance orange à la neige, notamment dans les régions Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, mais aussi plus à l'ouest en Bretagne et en Normandie. Sur ces deux dernières régions, il devrait encore tomber entre 5 et 20 cm de neige d'ici demain. Ces conditions météo particulièrement difficiles ont bien sûr des répercussions sur les transports. Sur la route, tout d'abord, un accident s'est produit ce matin près de Moulins, dans l'Allier, faisant 3 morts lors d'une collision entre une voiture et un poids lourd. Les poids lourds qui par ailleurs roulent à nouveau dans la vallée du Rhône et dans le Grand Est, sauf quelques exceptions. J'ajoute que le trafic des bus est toujours interrompu dans la région lyonnaise. Beaucoup de difficultés également sur les axes secondaires de l'ensemble des régions touchées par la neige. Le trafic ferroviaire à présent avec de fortes perturbations sur le réseau sud-est. Des retards de plus de 2 heures pour la plupart des trains circulant dans ce secteur. On passe à l'aérien. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est fermé depuis ce matin. Il pourrait rouvrir en début d'après-midi. Perturbation également, mais partielle à Lyon-Saint-Exupéry. En revanche, trafic a priori normal à Marseille-Provence et dans les aéroports parisiens, mais il y a des retards. Sachez également qu'environ 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard. Le courant devrait être rétabli avant la fin du week-end et toute l'Europe de l'Ouest connaît des difficultés similaires, voire pires, notamment en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, avec de grosses perturbations du trafic aérien et en Italie, où les fortes pluies et les vents violents privent actuellement d'électricité. Citer plus de 65 000 personnes dans le centre du pays. La mort hier soir de l'élève de 18 ans poignardé quelques heures auparavant dans un lycée professionnel du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Hakim n'a donc pas survécu à ses blessures au foie et à l'aorte. Son agresseur, lui aussi âgé de 18 ans, a été interpellé la nuit dernière vers 1h du matin à Évry-sur-Seine. Nouvel incendie dramatique. La nuit dernière, deux enfants de 3 et 4 ans et leur mère sont morts en plein centre-ville de Bordeaux. Le père a été hospitalisé dans un état très grave. Apparemment, le feu aurait pris dans un local technique avant de se propager dans les étages supérieurs. 13 autres personnes présentes dans l'immeuble ont pu être évacuées saines et sauves. Autre incendie, un couple qui est décédé hier soir à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. C'est la défaillance d'un appareil électrique qui serait à l'origine du sinistre. Manifestation ce samedi en Guadeloupe contre la vie chère et pour dénoncer certaines promesses non tenues par le gouvernement un an après les mouvements sociaux qui avaient paralysé l'activité économique de l'archipel pendant un mois et demi. La Coupe d'Afrique des Nations maintenue en Angola à partir de demain malgré l'attentat perpétré hier contre le convoi qui transportait les équipe de football du Togo, attentat qui a fait un mort, un chauffeur et 9 blessés, parmi lesquels 2 joueurs. L'attaque s'est déroulée dans une enclave située entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Le Togo doit décider dans la journée s'il participe ou non à la compétition. Et puis toujours en Afrique, les États-Unis ont révélé ce matin une menace potentielle d'attentat contre un vol entre l'Ouganda et le Soudan. J'ajoute que le jeune Nigérian qui a tenté de faire exploser le vol Amsterdam-Détroit le 25 décembre dernier a comparu pour la première fois hier devant la justice fédérale américaine. Il a plaidé non coupable. Merci d'écouter BFM Radio. Il est midi 33. Jusqu'à 13h, voici la deuxième demi-heure de BFM Academy présentée par Nicolas Dose.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaray et Sylvain Aurélie.
Et cette semaine, Maxence de Vaugelard avec 3D Dio versus Julien Audran avec espacerendezvous.fr.
BFM Academy 2010, la mouche du coach.
Allez, je vous rappelle les deux, trois informations clés sur 3DDuo. Déjà, l'adresse web, hein, 3DDuo.com, 3 le chiffre, DDUO.com. Maxence de Vaugelard est avec nous, 24 ans. Il en est donc à l'origine avec Sacha Stépagnan. Ils ont tous les deux 27% du capital. C'est une entreprise qui propose une game agency, hein, des créations de jeux vidéo en trois dimensions au service de la communication des entreprises avec trois produits phares, les Serious Games, les Adverts Games et les univers communautaires. Et ce projet extraordinaire de jeu grand public qui se passe à Lille, hein, pour une fois, voilà, c'est pas aux États-Unis ou sur. Mais c'est quand même dans un futur un peu lointain où il s'est passé des choses pas très très gaies sur notre terre. Voilà, ça s'appellera Lille, mais ça s'écrit L-E-E-L-H. 20 personnes aujourd'hui, 130 000 euros de chiffre d'affaires en 2008, 560 000 euros en 2009 et espéré 880 000 euros en 2010. FC Garret, Sylvain Aurébi.
Alors d'abord, je vais lui tirer les oreilles à Maxence, ah bon, parce qu'il nous a raconté des cracks tout à l'heure, puisqu'il faut télécharger quelque chose.
Ah oui, alors je me suis branché,
il a fallu que je télécharge un truc. Sur mon ordinateur. Donc,
je rappelle juste, Sylvain, qu'effectivement, il nous explique que les développements de jeux en 3D multi-utilisateurs sont accessibles en ligne, mais il n'y a pas besoin d'utiliser d'installations supplémentaires sur l'ordinateur.
Il a survécu, Sylvain.
J'ai survécu, mais j'ai dû télécharger un truc. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est quoi exactement?
Alors effectivement, vous avez dû télécharger un plugin. Un plugin, ouais, c'est un petit programme qui vient s'installer au-dessus du navigateur Internet.
C'est rien.
Bon, non, c'est rien.
C'est un jeu, c'est quoi, hein, presque rien.
Alors ouais, un petit peu à la manière de Flash, qui est un plugin pour les animations, les vidéos. Là, c'est la même chose. On peut espérer que dans quelques années, il soit intégré nativement à Windows. C'est pour ça que je disais.
Intégré nativement à Windows. J'adore ces expressions.
Mais ça sort bien, justement. Moi, je trouve que vous parlez pas trop jargon. Bon, vous n'avez pas tenu deux heures.
C'est joli, intégré nativement.
Là, c'est joli. C'est très, et en plus, bon, on comprend tout. Moi, je suis un bon cobaye pour ça. Je comprends vite pas grand chose dans vos domaines. Et je trouve que vous êtes très clair. Donc, ça, c'est déjà un bon point.
Moi, je trouve que c'est un très bon point. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Et je trouve que c'est une idée qui est promise à un bel avenir. Et je la trouve d'autant meilleure que je ne comprends rien aux jeux vidéo. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je m'en fiche à un point. Vous n'avez pas idée. Et malgré ça, j'ai été très séduit par ce que vous faites, par votre inventivité. Je trouve que c'est très bien. C'est d'ailleurs votre force, la créativité. Vous l'avez dit à l'instant. Vous avez une vraie créativité. C'est très fort. C'est très intéressant. Et puis vous avez évidemment la capacité technique à créer tout ça, mais aussi une capacité indéniable à collecter des fonds. Alors j'ai vu, on en parlait tout à l'heure, il y a des combien d'associations, enfin combien d'organismes vous en donnez de l'argent?
Il y a à peu près 4 ou 5 organismes qui nous ont accompagnés financièrement et aussi humainement.
Et des investisseurs en plus.
Un fonds d'investissement avec qui on a bouclé le premier tour en juin dernier.
Bon, donc la technique, vous connaissez ça de A à Z, mais en plus vous savez comment récolter de l'argent. Vous êtes donc des ingénieurs, vous et votre associé Sacha, et c'est bien là le problème. Parce que, ben oui, vous êtes des ingénieurs brillants, aux États-Unis on dirait des geeks, vous êtes à fond dans votre technologie, et vous êtes des fondus de techno, mais vous n'avez pas vraiment suivi les cours de marketing. Parce que quand on va sur votre site... Et oui, quand on va sur votre site, on sent un petit décalage, hein, un petit autisme. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même, et on voit que ce qui compte pour vous, c'est que ça marche bien, mais vous vous fichez de savoir un petit peu si tout le monde va comprendre. D'ailleurs, moi, quand j'ai lu votre fiche, j'ai pas compris ce que vous faisiez. Je ne savais pas.
C'est pas la première fois, Sylvain. Pour être très honnête, s'il n'y avait pas les sites web derrière,
oui,
souvent avec
alors
une
là,
petite presse
ouais, là,
ou alors
coup,
un extrait d'article de presse, ouais, hein, quelquefois.
J'ai pas du tout compris. Il a fallu que j'aille sur le site pour comprendre que vous proposiez aux entreprises de créer leur propre jeu pour en faire une pub, en quelque sorte. Et c'était pas du tout clair dans votre fiche. Et puis, bon, après, je suis allé sur le site, mais alors, il y a une toute petite vidéo qui est toute riquiqui, on peut pas l'agrandir, le son, il vient quand il veut, c'est tout orange et noir, c'est très, très agressif. Bon, c'est pas très convivial, votre site, non? Vous trouvez pas, vous avez pas fait d'effort pour le rendre sympathique, agréable et tout?
Alors, l'orange et noir, c'est une étude qui a été faite par notre directeur artistique, c'est les couleurs de demain en graphisme.
D'accord.
Donc, c'est des couleurs,
donc, je suis pas encore demain, moi, d'accord.
Non, mais c'est les couleurs de BFM, il y a le bleu en plus, hein.
Alors le noir, effectivement, le noir c'est le sobre, le simple, le classique, et le orange c'est les couleurs chaudes qui viennent donner la créativité.
Alors l'orange et noir, soit, enfin, mais l'ergonomie...
Le Rodiac à 50 ans, oui, il était déjà orange et noir,
hein. Oui, mais l'ergonomie du site n'est pas très conviviale, pas très agréable.
Alors l'ergonomie, on a essayé de faire simple, on a essayé de faire 4 catégories très simples pour pas perdre les gens. Ouais. On a voulu faire minimaliste parce que avant, pour la petite histoire, on avait un site beaucoup plus développé avec des interactions partout, les gens se perdaient.
Bon, mais après c'est vrai qu'on regarde, vous faites des démos, des jeux, c'est très bien, c'est très clair.
J'ai vu.
Alors c'est très clair, mais une fois qu'on est là-dedans et qu'on rentre, c'est parfaitement clair. On voit comment fonctionne chaque jeu. Bon, moi j'ai pas été capable d'aller très loin dans les démonstrations qu'on me proposait, mais le Lille, c'est très marrant parce que on entend les corbeaux ou les vautours, on se retrouve dans une ambiance très effrayante, et c'est vraiment très bien. Mais moi je crois que vous devriez faire un gros travail, alors soit faire un gros travail et aller apprendre le marketing véritablement, soit peut-être recruter quelqu'un dont c'est le métier.
L'équipe maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un qui est complètement dédié à ça.
Tout à fait, ça peut vous rassurer. Il y a deux choses. La première, on s'est pas attardé sur le site pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on va pas chercher nos clients grâce à notre site. Le site, c'est un plus qui donne la crédibilité.
Et pourtant, moi, je me serais laissé convaincre par le site.
Disons qu'on est sur des budgets tellement importants que c'est pas un achat coup de cœur. C'est un achat où on va devoir convaincre, on va devoir dialoguer avec le client pendant des mois et des mois pour pouvoir arriver à signer quelque chose.
Des mois et des mois quand même.
Alors, moi, je trouve que ce site, il est. Bon, c'est vrai que il n'y a pas que vous. Il y a plusieurs entreprises comme ça qui proposent du contenu vidéo, en l'occurrence, mais pas de jeux. J'ai remarqué qu'il y avait la boîte, finalement, elle est porteur d'un univers très sobre pour donner toute la valeur aux contenus qui sont créés. Bon, ça peut être un petit peu déstabilisant. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Je me suis dit, quand j'ai reçu votre fiche, et vous nous avez écrit plusieurs fois, d'ailleurs, vous nous avez sollicité déjà au tout début de l'entreprise, je me suis dit, tiens, voilà une bande de petits jeunes qui font du jeu vidéo. Je comprends pas trop, je regarde pas vraiment. D'abord, c'est tout jeune, on verra plus tard. Et puis, vous êtes revenu à la charge. Vous avez malgré tout affiné un petit peu votre communication, pas au niveau qui nous irait le mieux, mais quand même, c'était remarquable. Et puis, j'ai regardé de près. Et j'ai compris que finalement vous avez en main un média, un nouveau média, et c'est ça que je trouve remarquable, c'est la simplicité et presque la discrétion dans une certaine façon avec laquelle vous arrivez avec ce nouveau média et tout le pouvoir que ça peut représenter avec vos 24 ans tout mouillés. Voilà, ça me bluffe.
Je rebondis sur ce que dit Ève. Ce que vous avez fait pour expliquer aux jeunes collégiens la lutte contre la drogue. Expliquez-nous là, c'est quoi exactement, c'est pour quel organisme?
L'INPES.
L'INPES. Ouais. Ouais, je trouve ça très très intéressant.
Serious game, celui-là.
Ah, ça, c'est un serious game. C'est un serious game.
C'est sérieux, et c'est sérieux,
non, mais
ouais.
c'est. Alors, est-ce que vous savez si il est très beaucoup visualisé ce serious game?
Il a été en test pendant un an. Là, le produit est en cours de pressage parce qu'ils ont voulu justement eux pour le coup pas le faire en dématérialisé mais le faire sur CD pour le distribuer justement aux enfants dans les collèges.
Oui, physiquement.
L'objectif, c'est de faire des séances présentielles de 1 heure à peu près avec un professeur où tous les enfants sont sur un ordinateur, ils testent le produit et à la fin, ils font un débriefing avec le professeur.
C'est pas très nouvelle techno tout ça.
Bah si, quand même. Quelque part, les professeurs vont dans les salles informatiques, donc c'est déjà intéressant.
Maxence, à quoi vous saurez que vous avez réussi?
À quoi on saura si on a réussi? Tout simplement si la partie serious game continue à exploser comme elle le fait actuellement. Depuis cet été, c'est un véritable raz-de-marée sur le serious game. C'est peut-être aussi ça. Enfin, tout à l'heure, vous disiez, on comprend pas bien ce que c'est. Effectivement, c'est pas évident d'expliquer parce que c'est vraiment un nouveau média. Et aujourd'hui, quand on parle de jeux vidéo, ça fait peur aux professionnels. Et pourtant, notre cible, c'est les professionnels. Donc, c'est assez compliqué. Et là, c'est vrai qu'on est beaucoup aidé. On a notamment été aidé par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a lancé cet appel à projet cet été, qui finalement a démocratisé. Et nous, en fait, notre objectif, c'est justement de faire très simple et de pas rentrer dans le compliqué, notamment avec notre site internet, pour justement évangéliser. L'objectif, c'est d'évangéliser. Et aujourd'hui, on a justement recruté un responsable communication, marketing et développement commercial qui met en place des formations pour évangéliser nos clients.
On va apprendre que le FSI met 10 millions, 10 millions d'euros.
Peut-être, mais je leur prédis un grand avenir. Je crois que c'est très bien ce qu'ils font. Mais maintenant, vous allez nous dire la vérité. Vous avez 24 ans l'un et l'autre. C'est pas vous qui dirigez ça. Il y a quelqu'un derrière vous. Alors, qui est-ce? Qu'est-ce qui gère tout ça? Qu'est-ce qui dirige?
C'est nous qui dirigeons. Alors effectivement, on est très bien soutenus. On a mis en place un comité d'accompagnement.
Ah voilà, qui fait partie de ce comité. C'est une bonne idée, c'est une excellente chose.
Tous les organismes qui nous ont aidés depuis le départ, tous les organismes régionaux.
Ils participent à la stratégie.
Tout à fait. Alors ils participent pas à la stratégie, ils viennent une fois par trimestre et nous on leur parle un petit peu de l'actualité, ce qui se passe, les problèmes qu'on rencontre. Et eux en fait nous donnent leur réaction, leurs avis par rapport à ça. Après on décide, on fait ce qu'on veut.
Et Maxence, qu'est-ce que vous espérez de BFM Academy ?
Alors bah, BFM Academy, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, c'est évangéliser, pouvoir continuer à communiquer sur ce nouveau média qu'est le Serious Game et pouvoir faire comprendre à tout le monde ce que c'est et ce qui se cache derrière ces deux mots anglais un petit peu étranges.
Il y a beaucoup de game agency, parce que vous êtes une game agency. Il y a beaucoup de game agency en France ?
Alors, il y en a quelques-unes qui ont poussé, mais pour la petite histoire, c'est nous qui avons inventé le terme. Donc on est parti justement.
Vous l'avez déposé, j'espère.
On est fiers de vous avoir.
On l'a pas déposé, ça peut pas se déposer, c'est trop générique.
C'est mieux de pas le déposer.
Mais on est parti en fait de la web agency tout simplement et on a dit nous on fait pas des sites web mais on fait des games, on fait des jeux. Donc game agency tout simplement.
Très fort.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ?
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ceux qui viennent effectivement avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, utilisent ce terme aujourd'hui. Il faut évangéliser. Évangéliser le marché, c'est en fait faire connaître tout simplement ce qu'on fait et que ça peut servir à quelque chose.
Vous savez bien que Malraux disait que le 21e siècle serait spirituel. Donc voilà,
on ne saurait pas. Eh bien, écoutez, BFM Academy est là pour évangéliser aussi à sa manière. On marque une dernière pause. Donc, c'était notre premier candidat cette semaine, Maxence de Vaugelard, avec 3DDuo.com. Enfin, son site web, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave, 3DDuo.com quand même. Et après la pause, c'est la mouche du coach à suivre de Julien Audran avec Espace Rendez-vous.
BFM Weekend.
Cherchez un moyen simple pour créer votre entreprise ou augmenter vos revenus ? Devenez auto-entrepreneur. Lancer une activité en indépendant, ça s'apprend. Rendez-vous à la première université des auto-entrepreneurs en région pour rencontrer les meilleurs experts le 22 janvier à Orléans avec BFM Radio. Informations sur universitéautoentrepreneur.com. Université-auto-entrepreneur.com.
Ah, Chopin et Rubinstein. Alors quand Rubinstein joue Chopin, là, c'est vraiment sublime.
Chaque week-end à partir du 8 janvier, redécouvrez l'accord parfait entre un pianiste et une œuvre avec la sélection du monde du piano. Ce week-end, Chopin par Arthur Rubinstein dans un double CD livré au prix exceptionnel de 2 euros en plus du monde.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaret et Sylvain Aurébi.
Voilà, et également BFM Academy visible sur internet, sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr. Quand vous allez en fait voter pour le candidat A ou le candidat B, donc cette semaine pour Maxence de Vaugelard ou Julien Audran, eh bien il y a les coulisses de cette émission, le making of comme on dit, réalisé par Twideco TV depuis le début de la saison. Twideco TV a été candidat à la BFM Academy l'an dernier et puis est resté très très proche de nous. Ah, c'est quand même un média, c'est la chaîne internet de la formation économique de la région Centre, et sa créatrice Lucie Brasseur, eh bien, a décidé de mettre BFM Academy en image, en plus du son qui sort du poste comme tous les week-ends.
BFM Academy 2010, la mouche du coach.
Et Julien Audran avec Espace Rendez-vous, alors site de prise de rendez-vous, je disais l'agenda, le gestionnaire de planning en ligne qui en plus entretient le contact avec les clients, créé en avril 2009 à Paris 8e. Voilà, après le e-commerce, eh ben Julien s'est dit que c'était le temps du e-service était venu. Voilà, après les achats de biens en ligne, le temps de l'achat de services en ligne est venu, et lui il vend du service. Il vend donc sa solution de prise de rendez-vous à tout type de professionnels. On a pris l'exemple du coiffeur très longuement tout à l'heure, mais évidemment, tout ça peut s'élargir considérablement avec un véritable site de mise en relation, tout simplement, entre un professionnel et ses clients. Et puis, une fois que le client a l'habitude d'y aller, eh ben voilà, tout ça s'auto-régule et s'auto-génère avec toute une série de services, de fidélisation, de mise en relation avec les réseaux sociaux. Bref, voilà, il y a comme toujours de la vision un petit peu derrière tout ça. Espace-rendez-vous.fr, c'est l'adresse. Alors là, pour le coup, l'adresse du site est importante parce qu'on crée, c'est ça. Moi, je suis coiffeur, on va reprendre le coiffeur, je vais créer avec votre site mon agenda électronique.
Tout à fait, voilà. Vous allez sur le site www.espacerendez-vous.fr, vous rentrez vos identifiants, vous créez vos identifiants et vous allez paramétrer votre agenda en ligne sur mesure avec les horaires de votre activité, les horaires de vos salariés et les services que vous proposez avec les prix. Et bon, vous y accédez uniquement par internet.
Ok, eh bien écoutez, Eve Chégaret, Sylvain Aurébi.
Moi je pense que vous faites partie des services essentiels maintenant, même si tout frais, tout récent, pour se simplifier la vie. Pour gérer son agenda, son temps en fait, parce qu'au final on parle d'agenda mais c'est de notre temps et je crois que c'est notre dernier luxe. Les professions indépendantes sont certainement très très partagées entre être avec le client et toute leur gestion, hein. On sait beaucoup, et d'ailleurs les entrepreneurs qui viennent ici nous disent, nous l'administratif, la compta, c'est la nuit, donc on sait que le temps c'est précieux, donc ça je trouve ça génial. Je crois que dans votre communication, je vais directement sur ça, il faut vraiment donner à toucher du doigt, si on peut dire, à comment ça se transcrit pour un entrepreneur, un coiffeur, un garagiste,
oui,
etc.
C'est clairement, je crois comment que c'est clairement indiqué dans le. Il y a une bonne démonstration.
Oui, il y a une petite vidéo qui est parlante. Mais dans sa manière d'en parler aujourd'hui, c'est ça.
Oui, voilà. Je veux dire que et je me suis sentie concernée. Je vous ai fait une perche en disant peut-être les coachs. Quand on est un consultant indépendant et qu'on gère son agenda, je vous promets qu'on a souvent des sueurs froides en question de disponibilité et même le temps qu'on consacre à le gérer, c'est quelque chose d'effrayant. Donc moi, je me sens très concernée. Il m'a peut-être manqué un tout petit peu de choses pratiques. Maintenant, je trouve que c'est largement compensé parce que vous inspirez vraiment confiance, que votre discours est très simple, très clair et que ça, c'est plutôt rassurant. Je laisse la parole à Sylvain. Je me demande quand même comment vous allez faire pour que vos concurrents ne vous rattrapent pas ou ne vous dépassent pas. Mais c'est un autre sujet.
Oui, je viens sur les concurrents parce que bon, il y a rien à dire sur votre site. C'est très bien organisé, c'est très très clair. Vous avez clairement fait un benchmark assez complet sur le site des autres, pour pas dire plus, parce que c'est un peu pompé sur les autres sites qui ont pompé eux-mêmes les sites d'avant, parce que vous n'avez rien inventé et eux non plus. Hein, je me trompe, non?
On va répondre à la question quand même. Oui, oui. Julien, est-ce que vous êtes 25 000 aujourd'hui à faire ça sur la place du web? Voilà.
Non, alors si, aux États-Unis, cette solution existe depuis 2-3 ans. Il y a quelques acteurs qui se sont positionnés sur le segment en France, plus particulièrement sur le segment des médecins, qui a été le premier marché le plus adressé. Nous, on n'a pas pompé notre site sur les autres, mais il est vrai qu'on a tous un cœur de métier commun qui est de la prise de rendez-vous par Internet. Donc vous retrouvez un certain nombre de
ressemblent tous quand même. Hein. Mais bon, c'est bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clients et vous avez des dizaines et des centaines de milliers de clients potentiels.
Tout à fait. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, c'est pas que de la prise de rendez-vous par Internet et c'est pas que de la gestion d'agenda. Nous, on propose des outils performants pour des gens qui ne savent pas encore ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le web. Ils vont pouvoir vraiment, une fois qu'ils ont créé leur agenda, communiquer avec leurs clients existants. Ils vont par exemple pouvoir envoyer un SMS ou un email à tous leurs clients en leur annonçant la semaine prochaine, on vous fait moins 10% sur nos prestations.
Oui, mais ils doivent avoir un site web déjà.
Pas forcément, non, puisque notre logiciel Agenda génère automatiquement une page de prise de rendez-vous. D'accord. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un site web.
Bon, moi, j'ai pas de soucis sur votre business model. Ça m'a l'air d'être bien bâti. Ça existe ailleurs et ça fonctionne. Je suis pas très inquiet. Là, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est vous. À la lecture, oui, vous, personnellement, Julien, à la lecture de votre fiche, j'ai senti beaucoup d'angoisse. Beaucoup, beaucoup d'angoisse. J'ai l'impression, besoin de réassurance. Vous parlez constamment de convaincre votre entourage. Ça a dû être très très difficile au départ. Vous avez dû les convaincre de la pertinence d'abandonner un job confortable dans la banque. Et apparemment, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Vous dites plus loin que vous craignez de perdre de la crédibilité à leurs yeux parce que votre projet a du retard. Donc vous avez un peu la trouille là. Et vous dites après tenter de les rassurer en leur racontant que vous êtes en contact avec des employeurs potentiels au cas où ça marche pas votre projet. Alors c'est faux évidemment puisque vous n'avez jamais pensé à abandonner ça. Et puis vous nous dites même que vous voulez atteindre le nombre de clients suffisant pour permettre d'être crédible auprès des investisseurs. Alors il y a toujours, on a l'impression que vous êtes stressé, angoissé, que vous avez un petit peu peur de ce que pensent les autres de vous.
Il est peut-être Sylvain le premier à oser le dire aussi, à oser l'écrire. Hein,
peut-être qu'il ne l'écrit pas parce que, en fait, je pense que c'est inconscient chez vous. Parce que quand je prends votre fiche par rapport à celle des autres, elle fait à peu près deux fois plus. Elle est deux fois plus longue que celle des autres.
Détaillée.
Elle est hyper détaillée, vous répondez à tout, vous donnez plein de détails. Donc on sent qu'il y a une crainte derrière tout ça. Non, vous n'êtes pas...
C'est pas une crainte. Je ne pense pas qu'on puisse parler de crainte ou de peur ou de stress particulier. C'est juste que ça fait 5-6 ans que je travaille, j'avais un job confortable, j'étais en banque de fer, tout tournait bien, j'avais un métier passionnant. Et du jour au lendemain, vous annoncez à votre entourage que ça y est, vous avez lancé un truc de prise de rendez-vous par Internet. Alors déjà, ils comprennent pas au début.
Mais vous en foutez, non ? C'est votre argent. Ouais. Vous avez mis 100% du capital. Vous êtes tout seul.
Exactement. Mais il faut les rassurer. Il faut rassurer votre entourage. Il faut leur expliquer que votre projet est crédible.
Moi, je crois que vous êtes quelqu'un de responsable et que ça a fait partie de votre cheminement de vendre votre projet à vos proches parce que. Monter une boîte, tout le monde n'aime pas cette formule, mais créer une entreprise et puis faire en sorte de la développer, c'est toujours, toujours, toujours une histoire de réalisation personnelle aussi. L'entrepreneur, il a toujours des vues sur ce que ça va avoir comme impact sur son conjoint, sur ses proches. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez évalué.
Ouais. Et là, votre conjoint est très participant dans l'histoire, puisque je crois que vous travaillez dans le même endroit, parce que vous avez la même adresse, la bonne sculpture. Décor.fr ou .com.
Bien vu, oui.
C'est la fameuse chaîne.
Et voilà. Donc, j'ai vu que vous travaillez au même endroit, que vous vous êtes lancé parce que votre femme vous a dit, allez, vas-y, sinon tu le feras jamais. Donc, c'est encore elle qui vous a poussé. Vous n'avez pas envie de prendre votre envol, de couper le cordon une fois pour toutes et de faire ce que vous avez envie de faire, vous, sans cesse attendre qu'on vous dise, vas-y, n'y va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas envie de vous lancer tout seul, là, de dire à tout le monde, fichez-moi la paix maintenant, je fais mon truc, ça me regarde.
Alors, vous avez raison, non, mais c'est ce que j'ai fait en fait.
Vous avez fait avec beaucoup de douleur. Vous avez encore peur d'avoir fait ça. Vous retournez sur votre passé en disant, mais je l'ai fait, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va m'arriver? On a l'impression que vous êtes encore là, essayer de les convaincre que c'est bien tout ça. Alors que c'est bien ce que vous faites.
Non, mais j'espère que c'est bien. Mais je pense que quand on crée sa société, quand on monte sa société, il y a une phase de réflexion. Il faut pas se rater. Mmh. Il faut regarder son marché. Il faut interroger des gens. Mmh. Nous, on est allés sur le terrain. On a rencontré des esthéticiennes, des coiffeurs, on a rencontré plein de monde. Donc c'est un projet qui se construit. Donc vous avez des interrogations. Et vers qui vous allez vous tourner en premier si vous avez des questions sur votre projet, sur votre entourage? Donc c'est normal, ils vous accompagnent dans ce projet, ils vont porter ce projet avec vous et c'est normal que vous ayez envie de les convaincre. Et si vous pouvez profiter de l'opportunité d'être marié avec une entrepreneuse. Pourquoi ne pas en profiter?
Mais vous avez fait une bonne école, vous avez travaillé dans la banque d'affaires, vous avez plein de capacités, vous êtes capable de gérer ça tout seul, donc détendez-vous. Et puis,
mais une remarque justement par rapport à la banque d'affaires, finalement votre vie aujourd'hui c'est comment comparé à être un jeune loup des banques d'affaires?
En fait, je retrouve ce qui me plaisait en banque d'affaires. En banque d'affaires, mon métier c'était d'accompagner des entrepreneurs actionnaires, souvent jeunes, dans des levées de fonds pour développer leur société, et c'est ce qui me plaisait dans ce métier. Et aujourd'hui je le retrouve au quotidien puisque je suis confronté à ces problématiques, et c'est pour ça que je me suis lancé.
Et aujourd'hui vous faites appel à des investisseurs, donc si quelqu'un vous entend et veut regarder de près votre business à vous, c'est la chaîne là qui continue. Hein.
Juste un mot, point mort opérationnel mi-2010, traduisez-moi le mot point mort, là, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Nous, en fait, l'investissement principal aujourd'hui, c'est la brique technologique pour notre agenda, puisqu'on a, il y a un vrai travail sur cet agenda, il y a eu la R&D, c'est un agenda qui doit plaire au plus grand nombre, et une fois qu'on a dépassé cette brique de coût de l'acquisition de la technologie, il y a des salaires, mais le rythme de recrutement de clients nous permettra d'arriver à profitabilité.
BFM Academy 2010, le 26 juin. Il n'en restera qu'un.
Voilà, il n'en restera qu'un dès cette émission, puisque c'est vous qui allez devoir départager Maxence de Vaugelard avec trois des duos, de Julien Audran avec espacerendezvous.fr, ce qui sont donc nos deux entrepreneurs, on ne va pas dire créateurs, c'est vrai, ce sont des entrepreneurs, même si les entreprises sont récentes, à mars 2008, avril 2009, mars 2008 pour trois des duos, avril 2009 pour Espace Rendez-vous. Voilà, ça se passe sur le site de la radio de l'Écho, vous connaissez la règle du jeu, bfmradio.fr, ça ne coûte rien, quelques clics, mais en tout cas, c'est vous qui décidez. Comme toujours en fin d'émission, pour terminer, on va s'intéresser à ce que sont devenus nos précédents participants à cette émission, qu'ils aient d'ailleurs gagné ou pas l'émission à laquelle ils ont participé. Et en l'occurrence, nous appelons Nicolas Migonnet. Bonjour.
Alors,
je vais rappeler un peu ce qui s'était passé avec vous. C'était le week-end des 30 et 31 mai dernier, 2009, avec mangerlanuit.fr, la livraison de repas à Paris et dans la petite couronne, à l'époque, de 22h30 à 5h du matin. Manger la nuit à l'infinitif. Mangerlanuit.fr, création décembre 2008. Vous étiez à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Alors, où en êtes-vous? Que s'est-il passé depuis qu'on s'était rencontrés à l'aube de l'été dans les studios de BFM?
Eh bien, écoutez, ce qui s'est passé, on a développé, comme on le souhaitait, Mangerlanuit.fr, c'est-à-dire qu'on a consolidé notre clientèle, on a consolidé nos services, on a un petit peu réadapté puisque maintenant on a réduit nos horaires, on s'arrête à 3h du matin la semaine et 4h le vendredi et le samedi. On a fait preuve d'un petit peu de pragmatisme.
Un petit peu plus léger, c'est ça?
Oui, un petit peu plus léger, parce qu'effectivement, le métier de la nuit, c'est un métier, on va dire, fatigant pour les salariés. Et effectivement, la demande était relativement trop faible sur la fin de la nuit pour nécessiter de continuer à avoir les équipes en place. Donc on a réduit, on a fait preuve d'un petit peu de pragmatisme par rapport à ça.
Oui, mais moi je me demandais ce qui s'était passé, parce que vous cherchiez, à l'époque vous nous en aviez parlé, à vous développer, vous aviez besoin de soutien financier.
Nouvelles localisations géographiques aussi à l'époque. Hein.
Et j'ai cru comprendre que ça n'avait pas été si facile que ça.
Alors effectivement, effectivement, on a continué notre croissance organique, on va dire, avec nos clients, avec le recrutement, avec de la communication. On n'a pas été forcément suivi comme on l'espérait par notre partenaire financier. Mais ça, c'est, je crois, les aléas du business et puis la conjoncture qui a peut-être voulu un petit peu ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase de consolidation. Donc, on est en train de réunir un tour de table de partenaires financiers pour consolider l'activité, effectivement, et permettre notre développement. Aujourd'hui, on a eu plus que des accueils favorables de la clientèle puisqu'elle a, elle a augmenté. On continue à avoir des nouveaux clients tous les jours. On continue à avoir des partenaires.
Et avec l'hôtellerie, vous aviez des projets avec l'hôtellerie. Vous aviez commencé à en toucher un mot l'été dernier.
Ces projets se concrétisent puisqu'effectivement, on a été contacté par plusieurs groupes d'hôtellerie très présents sur la région parisienne pour effectivement assurer ce service, ce room service de nuit. On avait déjà un certain nombre d'hôtels qui nous faisaient confiance et maintenant ça va être en phase de s'officialiser probablement. Donc ça va être une nouvelle étape puisqu'effectivement on va rentrer dans un B2B qui conduira peut-être effectivement à...
Donc ça veut dire que les hôtels concrètement externalisent leur room service en faisant appel à vos prestations?
Les hôtels, quand vous avez des groupes hôteliers qui ont 150 hôtels sur Paris et Petite Couronne sans offre de nuit, bah, ils se disent qu'effectivement, si demain on a un prestataire qui peut centraliser ce type d'activité, eh bien, on peut leur faire confiance. Alors il va y avoir un pilote probablement sur quelques dizaines d'hôtels et puis ensuite probablement on va contractualiser un partenariat officiel et peut-être un petit peu plus, peut-être une internalisation après l'externalisation.
Bon, c'est dormir la nuit et manger la nuit désormais. Hein.
Oui, mais ça a plusieurs avantages.
Nicolas, vous êtes seul sur votre marché toujours pour l'instant, le marché du 22h à 4h, 3h, 4h du matin.
Toujours, bravo.
www.mangerlanuit.fr, à l'infinitif manger, hein. Mangerlanuit.fr, c'était donc les 30 et 31 mai dans la BFM Academy. Retour à l'actualité de cette semaine entre Maxence de Vaugelard avec 3D Duo et Julien Audran, espace rendez-vous. C'est vous qui décidez, rendez-vous sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr. À la semaine prochaine.
Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Academy.